Alors, pour commencer, ben, on va faire mon petit intro à habituel quoi, du professeur Johan, celle qui n'a aucun rapport. Alors bon, bah, si, quand même, c'est un peu de rapport, parce que je vais rappeler quand même que le jeu de rôle, c'est un vivier d'univers divers, effectivement. Tout y passe, le fantastique, l'ASF, l'historique, l'ultra réaliste aussi. Tous les types d'environnements aussi, les mondes steampunk, futuristes, post-apo, médiéval, moderne, armes nouveaux même hein, dans certains cas. Encore une fois, j'en passe des meilleurs. On a quasiment à peu près fait le tour, mais j'imagine qu'il y a encore de nouveaux univers à découvrir, de nouveaux types de mondes qu'on pourrait faire à coloniser. Mais il y a un milieu qui pourtant se trouve proche de nous, mais qui, et même s'il n'est pas exempt de bons jeux, est finalement assez peu utilisé comme toile de fond générale. Je parle bien sûr du fond des océans. Alors, à part des suppléments ou des règles optionnelles pour certains jeux, la plupart des jeux ayant le trait un peu dans le futur, ou ont toujours au moins un petit passage du style des colonies sous-marines ou un truc de sous-marin, mais en général, c'est pas, y a très peu de jeux dédiés uniquement en fait, à cet univers-là. Finalement, il n'y en a que deux qui me viennent en tête, chez nous, c'est Polaris et Subabyss, justement. Les deux finissant Is, ça doit avoir quelque part sorte de conspiration sur ça. Donc, c'est d'ailleurs c'est de ces derniers dont nous allons parler aujourd'hui, et plus particulièrement de la 8ème édition, qui est sortie chez les Ludopathes en novembre 2012. Alors, petit rappel de la gamme, Subabyss, c'est un jeu de rôle porté depuis le début par Yann Bourget, son créateur. C'est un gars du coin en plus, hein, puisqu'il siège à Coulommiers, comme on en discutait il y a quelques instants en antenne. En tout cas, il a siégé pendant pas mal de temps. Il a dirigé, je me rappelle bien, une agence de, enfin, un club de jeux de rôle là-bas. Donc, je peux pas confirmer qu'il y habite encore, mais j'imagine que oui. Donc, la première édition qu'il a créée remonte au début des années 90, tapé à la machine, un truc vraiment fait brut de pomme, comme ça. Le truc est vraiment artisanal, quoi. C'était un peu de l'auto-édition, quelque part, c'était même un peu du phénomène unique, mais bref, c'était la première édition, écrite et rédigée par lui. Subabyss connaîtra donc 4 moutures dans les années 90, un peu toujours de la même façon, toujours un peu réécrit comme ça, de façon personnelle, après sur un ordinateur perso, ce genre de choses-là. Et la 4ème édition, elle, reconnaîtra en fait une sorte de de réédition, même si, bon, elle était restée un peu personnelle, donc à partir de 2001, chez les éditions La Boîte à Polpette. Donc, petit rappel, La Boîte à Polpette est une association spécialisée dans l'édition de jeux de rôle amateurs. Donc, ils prennent un peu des petits jeunes gens qui ont des jeux de rôle un peu maison et, ma foi, ils les aident un peu à les éditer. Ce qui est très louable. En 2004, la série sera éditée à compte d'auteur par Yann Bourget lui-même, sous le nom, l'appellation Napalm Édition. Ainsi se succédera diverses éditions, la 5e, la 6e, la 7e, plusieurs suppléments, et le premier écran de la série. En 2010, les Ludopathes reprennent le titre. Après un premier kit de démo en 2011, et 2 ans d'attente, il faut l'avouer, la 8e édition paraît enfin, et c'est de celle dont on va parler aujourd'hui. Alors, je tiens à noter qu'à titre personnel, j'ai découvert la gamme avec la 8ème édition. L'historique que je viens de vous citer, je l'ai écrit sur la base d'informations glanées sur les sites officiels et sur le grog.fr. Donc, si erreur il y a, merci de nous faire parvenir un erratum exempt d'insulte. Les gens visés se reconnaîtront si un jour ils entendent ceci.
Oui, c'est bon, c'est bon.
Voilà, n'ayant pas eu accès aux éditions antérieures, il m'est difficile de juger de l'évolution du contenu. D'après ce que j'ai pu comprendre, la 8ème ressemble pas mal à la 7ème, dans la forme, c'est-à-dire un livre découpé en 5 parties distinctes. Mais elle a bénéficié d'un rééquilibrage, une mise en page plus intéressante et une foultitude d'illustrations et de contenus en plus.
De toute façon, on adore.
Merci.
On a trouvé ça génial.
Ouais, voilà.
Non, c'est vrai que le bouquin est super beau. Je sais pas comment étaient les anciennes éditions, mais les illustrations, en fait, si elles sont depuis le début dessinées par cet auteur.
Non, en fait, c'est plusieurs auteurs, faut savoir. D'accord, hein. Il y a plusieurs dessinateurs. Il y en a au moins 5 si j'en ai plus bien. Bien sûr, comme par hasard, j'ai oublié la moitié des noms. Alors, attendez 2 secondes, je vais vous dire ça.
On peut parler des dessinateurs quand même.
Parce qu'ils sont vraiment magnifiques.
Ouais, ils sont bien chez
Bien sûr que oui, ils ne sont pas marqués directement. 6 dessinateurs. Alors, il y a Serge Biro qui a fait la couverture, Alexandru Popescu, Mathieu Moreau, David Lecossu, Jocelyn Grange et Anthony Caravaca. J'espère que j'ai fait aucune erreur. Donc, voilà. Pour les gens. Donc à noter d'ailleurs que les couvertures de la 7ème et la 6ème édition sont éparpillées un peu partout dans le livre, on peut les retrouver un peu comme ça. Bien, maintenant arrêtons de parler du passé et concentrons-nous sur la bête. Alors, il est difficile de bien savoir ce qui régnait avant la purification. Nous sommes en l'an 294, et si nos ancêtres ont été les élus des dieux, il n'est pas dit qu'ils s'en sont tout de suite rendus compte. La première colonie en Subabis a été construite en 129. Moins d'une décennie après, on discernait déjà les contours des 8 grands états de l'océan. Subabis, Atlantide, Sumérie, Océanie, Nitlantis, Ambre-Mer, et les grands méridiens du sud et celui du nord aussi. Il a fallu attendre 165 pour que tous aient une vraie existence sur papier, bien sûr. Les politicards, ça a toujours un train de retard. Alors, sauf Aigir Donovan. Ah, lui, c'était un mec, hein. Après un coup d'état en 174 en Subabis, il déclencha une vague d'expansion du pays, ce qui fut appelé la guerre des profondeurs. 20 ans de conflits littéralement ininterrompus à l'échelle mondiale. Ils laisseront les pays totalement exsangues. Et en 213, on créa le gouvernement des océans pour que ça recommence jamais. Quelle connerie! Comme si ça allait empêcher les gens de se foutre sur la gueule. Mais bon, ça semble tenir en attendant. Après ça, ça a été rapide. On a rebâti des satellites et posé une base sur la Lune. Moi je dis rien, hein, mais l'espace, c'est trop éloigné des océans. Hein. C'est mal. C'est contre la volonté des dieux. Et pour ça, la grande vague déjà, elle a détruit les ancêtres, les infidèles de l'an zéro. Moi je dis, c'est comme au contraire l'engagement des dieux, quoi. Enfin bon. Quelques révoltes de mutants à Mercandis entre-temps, mais bon, ces monstres n'ont pas voué au chapitre, hein. Leurs ancêtres étaient les infidèles qui ont survécu à la vague purificatrice. Ils sont donc mutants pour servir les vrais croyants et leurs enfants, c'est nous, c'est les prêtres qui le disent. Enfin, bon, maintenant tout va bien, on trime un peu pour faire quelques dollars. Il y a une mine ou deux de propergole qui pète de temps en temps, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est à 10 000 mètres de profondeur, c'est loin de nous. Mais rien de trop nouveau chez les océans, quoi. Alors voilà, dans Subabis, comme vous l'aurez compris, on joue un habitant d'une des 8 nations sous-marines, sauf celle d'Atlantis, parce que c'est un pays entouré de mystères qui est entouré de mystères. Bah oui, en fait, on n'en sait pas beaucoup plus, hein. Vous l'aurez compris d'ailleurs, quand même en 294, tout n'est pas rose, les tensions entre états ne se font plus coutumières, les armes sont aiguisées, on n'est pas en guerre larvée, mais on sent que ça a pété, que ça peut péter facilement, quoi. Donc les joueurs seront des personnes évoluant dans l'univers, ballottées dans les eaux des conflits politiques, des manipulations génétiques et d'un monde où actes de piraterie et conflits sont relativement courants. Donc voilà, c'est un univers assez pulp dans son approche du jeu de rôle. Subabis possède un style assez accrocheur. Le livre de base est présenté donc en 5 parties distinctes, comme on l'avait dit, représentant chacune donc respectivement l'univers, la création de personnages, les prêts tirés et les prêts tirés avec. Les règles du jeu, une partie sur la technique et l'inventaire, et un complément contenant bestiaire et scénario. Alors,
il y a un scénario dans le livre de base.
Il y en a plusieurs d'ailleurs, il y en a 6.
Ah, sympa, ouais.
Alors l'univers semble assez riche, hein, est construit sur 20 ans de campagne et de suppléments ayant étoffé l'univers petit à petit. On sent quand même que voilà, il y a un gros truc, on a du mal à s'en rendre compte. Alors. Personnellement, je suis très fan de background fouillé et complet. J'avoue que donc, de suite, la vingtaine de pages d'introduction sur le monde m'a pas mal laissé sur ma faim.
Ah.
Oui, seulement 20 pages. Mm. Donc, c'est assez petit, il faut l'avouer. Le but exprimé donc, par l'auteur était de laisser une large zone de manœuvre au MJ pour qu'il ne soit pas enfermé dans un carcan particulier et se sente libre d'innover. Mais là, vu le peu d'informations, on se sent même pas libre d'innover, on est obligé en fait, littéralement. Certes, on est. Certes, quelque part, ça peut être bien aussi, mais sans nouvelles, sans texte d'ambiance, et avec seulement 6 pages pour présenter les 8 nations pourtant primordiales du jeu, puisqu'elles influent énormément sur les interactions sociales et sur la création de personnages, ça me semble un peu maigre. Je veux dire, quand un joueur dit bonjour, je joue à Subabis, qu'est-ce que je sais savoir? Les mecs de Subabis, ils sont puissants, ils le savent, ils pètent plus haut que leur cul et ils se la pètent.
Mmh.
Voilà. Et les autres les détestent parce que c'est des gros canards.
Les mecs d'Atlantis, tu veux dire?
De Subabis.
Ah, Subabis, voilà. C'est le nom d'une nation.
Voilà, c'est le nom d'une nation, c'est la première nation en fait des océans. C'est pour ça que c'est un peu le nom du jeu, quoi.
Ok.
Donc, voilà, le problème aussi un peu, c'est qu'on se retrouve pareil dans le même genre avec des mutants, mais on ne sait pas trop comment sont les interactions avec les gens. On a quelques indications comme quoi finalement les mutants, ils sont un peu maltraités, c'est des esclaves.
Il y a des chasseurs de mutants aussi.
Voilà, c'est des esclaves, donc forcément il y a des gens qui les chassent, qui les récupèrent, qui les font. Mais on marque aussi que finalement ils sont traités, il y en a certains qui peuvent être aussi bien des professeurs pour les hautes classes que des gardiens d'immeubles, que des prostituées, que de la chair à canon pour les arènes de mutronnage. Mais finalement, c'est très peu exprimé, on comprend pas trop. Pareil pour le clergé. Il y a une église qui est tenue, enfin qui tient le monde d'une main de fer, qui vénère des dieux fortement cthuliens, aussi bien dans leur apparence que dans leur psyché, mais quasiment rien n'est dit sur son influence et son histoire. On a un petit passage en fait qui explique, donc on a l'organigramme de la religion, avec en haut il y a le grand prêtre, en bas il y a ça, après voilà, après il y a le prêtre classique, mais finalement c'est très peu, on en apprend très peu sur la façon dont le culte est géré, comment est-ce que les gens prient, est-ce qu'ils ont des hôtels, est-ce qu'ils vont voir les prêtres, quel est le poids politique d'un prêtre finalement par rapport à ça. Donc plein de petites choses comme ça qui sont très peu dites, et qui finalement fait que ben on reste vachement sur la fin, quoi. Je ne critique pas l'univers en lui-même, hein, justement, au contraire, il a l'air incroyablement riche et développé, et quand on commence à lire, on a un peu l'impression parfois que quand on commence à lire les premières pages, j'avoue que quand je commence à lire le background, je me suis dit, ah oui, là en fait ils mettent en jambes, et après par la suite en doute ils vont développer beaucoup plus le truc, et ça va être bien, et truc. Et non, que dalle, une fois qu'on a fini, on a un peu l'impression d'avoir un début d'introduction d'un univers, et on s'attend à voir le vrai background qui suit, et en fait on a que ça, et quelque part... voilà,
pas
ça...
trop pour les maîtres de jeu débutants,
pas trop, non.
Faut travailler quoi quand même.
Voilà, faut quand même travailler minimum, ça se révèle quand même assez frustrant finalement comme j'ai dit. Après c'est une gamme qui a tendance à marcher beaucoup par des suppléments. Donc là, par exemple, il y a justement le premier supplément qui vient d'être annoncé, donc qui marche beaucoup par supplément.
Déjà, comme beaucoup de jeux aujourd'hui, hein. C'est
oui,
vrai,
c'est
que
vrai.
Le livre de base pose les bases et
oui, c'est vrai,
les suppléments complètent.
Mais c'est rare, par exemple, dans le livre de base, tu vois, par exemple, au départ d'une page, alors c'est pas précisé exactement ce que fait, par exemple, il y a une tenue de plongée qui est donnée à un moment, il y a les statistiques, il y a 2-3 informations, et après, il y a aucun background sur ce. Alors, comme possible, il y a toujours un petit background qui explique qui c'est qui l'utilise, il y a marqué sur celle-là. Alors oui, pas d'informations, ça viendra dans le prochain supplément. Donc j'avoue que c'est un peu...
Eh oui.
On a tendance à se dire un peu, voilà, mais dans le jeu de rôle, alors là pour le coup ça a marché, c'est bien qu'on marche, mais dans le jeu de rôle souvent ça arrive qu'on se retrouve avec des suppléments qui sortent pas parce que le jeu de rôle a pas marché, et je trouve ça un peu
aussi,
dangereux, voilà, en fait, en gros, de mettre...
Des choix éditoriaux, hein, c'est pas
voilà,
toujours...
Effectivement, mais bon, après c'est comme ça, c'est dommage, mais bon, ça si... Alors,
c'est jouable quand même. Parle-nous un petit peu des règles,
voilà,
peut-être.
Oui, attends, j'arrive à la fin. Donc voilà, effectivement. Donc les contraintes éditoriales, justement, le manque de place, sont sans doute joué sur le manque de background. Dommage, mais compréhensible dans ce cas. Après, j'avoue que parfois on se trouve avec 15-20 pages de suite d'illustrations en fait de différents sous-marins et finalement très peu d'informations sur eux. Et donc on arrive, ça fait un peu gaspillage. C'est bien, les illustrations sont très belles, mais ça fait limite un peu gaspillage de place par rapport. Et c'est vrai que dans ce cas-là, peut-être 10 pages de background en plus et des illustrations plus petites pour les sous-marins, ça aurait peut-être mieux. Enfin bon, après, c'est une question de point de vue personnel. Mais bon, la création de personnages ensuite est très particulière et proposée de deux façons différentes. Alors, la façon originale, la façon première et originale du jeu, c'est de tirer au hasard ta nationalité, donc parmi les 7 proposées. Rappelons qu'Atlantide ne soit pas disponible pour l'instant. Se trouve ça pour un supplément toujours, on verra. Donc, cette nationalité, une fois qui modifie en fait plus ou moins les caractéristiques qu'on va avoir. Par exemple, les subabyssiens, les gens d'Atlantis commencent avec des stats beaucoup plus bourrines que les autres. Après, on choisit son métier, qui donne aussi une partie des stats, caractéristiques et un peu de compétences. Et enfin, on sélectionne, une fois avoir sélectionné celui-ci, on jette au hasard encore une fois une spécialisation. Par exemple, t'es scientifique, bravo, t'es scientifique. Scientifique en quoi ? Est-ce que t'es spécialisé chimie, physique ? Voilà. Donc, on tire encore une fois ça au sort. Ça nous donne encore une petite modification de compétences, ce genre de choses-là. Une fois que c'est fait, on choisit les qualités et les défauts. Alors attention à regarder parce qu'ils sont très très bien foutus. Après on a une répartition de points de pourcentage pour les diverses compétences du jeu. Si tu le tiens, t'as 210 points pour acheter des compétences physiques, démerde-toi avec. Et enfin, on a la possibilité d'acheter des modifications génétiques, des améliorations génétiques. Par contre d'ailleurs, on trouve encore une fois un petit problème que j'ai avec le bouquin. Les dites améliorations génétiques sont genre, c'est précisé, ouais, maintenant vous pouvez acheter des améliorations génétiques. Mais on les trouve pas. Elles sont pas à la page suivante, elles sont pas là et tout le reste. Et en fait, faut arriver à la zone suivante, qui est la zone des règles, dans laquelle en plein milieu se trouvent les améliorations génétiques disponibles. Alors, je peux comprendre qu'ils ont voulu mettre les règles des améliorations génétiques et après toutes les améliorations disponibles, mais ça partitionne un peu un truc qui devrait se trouver justement à côté de la création des persos. Et donc, ça fait un peu, ça fait un peu déstabilisant. En tout cas, moi, ça m'a un peu déstabilisé. Bon. Voilà quoi. Après, on a bien sûr à créer le background, le salaire, les menus détails complets et à lancer. Et là, par contre, c'est assez intéressant. Là, la statistique en plus, la statistique du facteur chance qui est tirée au hasard. On lance 4d10, plus ou moins des bonus de votre nationalité. Certains gens, certains pays ont beaucoup de chance et d'autres, pas du tout. Voilà, donc ça, a priori, c'est comme ça. Le facteur chance, ça sert plus ou moins, ils expliquent, quand vous savez pas quoi foutre, en fait, en gros, c'est pas un truc qui est uniquement sur qui est pas du tout sur la force ou sur l'intellect ou quoi que ce soit, bah, c'est uniquement de la chatte. Bah, lance-moi facteur chance, on verra bien. Hein,
d'accord.
Donc, l'autre possibilité pour créer son personnage, c'est d'ignorer la répartition de nationalité et de profession. On te donne 110 points à répartir entre les 4 caractéristiques de base, qui sont la force mentale, le physique, l'habileté et la technique. Mmh. Et voilà, après tu fais et puis tu t'amuses avec.
C'est pour pas déséquilibrer le jeu. Il y a pas mal de jeux qui proposent ce genre de,
voilà,
de, d'alternative. Tu parlais de Cthulhu tout à l'heure, l'appel de Cthulhu, ils font ça aussi. C'est pour pas avoir une équipe où il y en a qui ont complètement raté leur jet et d'autres qui l'ont super bien réussi et qui finalement ils vont pas être très complémentaires.
Ouais, quoi. Je sais bien. Après, dans celui-là, j'avoue que la création, tu peux avoir des personnages qui sont déjà très bourrins dans, dans leur milieu. Je dirais, par contre, tu peux facilement avoir des gens qui arrivent à 100%. Mais comme ils expliquent. En fait, on va revenir un peu ça sur les règles, quelque part. Alors, je vais expliquer un peu, justement. Donc, quand on arrive à 100%, on ne peut pas déplacer 100. C'est-à-dire que même, par exemple, tu as des bonus qui t'amènent, par exemple, à avoir 160 points, tu n'as que 100. Ce qui fait qu'après, quand les malus vont arriver, tu pars toujours de 100, quoi qu'il arrive.
Ah oui, ok. Oui.
Donc voilà, tu ne peux pas avoir 160 ou moins 30, je suis à 130%. Non, c'était à 100, et puis tant pis pour toi si tu dépasses. Maintenant, tu descends, bah voilà, t'es 100 moins 30, bah t'es à 70.
D'accord.
Donc voilà. Alors, on va parler justement des règles. Alors pour effectuer une action spécifique, on fait une addition de la caractéristique et de la compétence associée. Par exemple, j'ai 40 en physique, j'ai 15 en soulevé, bah j'additionne les deux, ça fait 55. Voilà. Et on lance un dessin. C'est le seul de difficulté, ça. Et on doit faire moins sur un dessin pour réussir l'action.
Bon, jusqu'à là, c'est ça.
Voilà. Après, bien sûr, on ajoute des bonus, malus, hein, sur l'action. C'est très facile, c'est très difficile, c'est quasiment possible. Donc voilà. C'est plus ou moins ça l'idée. On fait une réussite critique si on fait un résultat égal à 1/20 du score total.
D'accord.
C'est-à-dire que, par exemple, tu dois faire 60, tu dois faire 1 à 3, c'est une réussite critique. Voilà, ça c'est simple. Sachant qu'il y a un don, en fait, qui te permet de te passer à ça à 1/10. Donc, ce qui est plutôt bourrin. Mais bon, c'est un don qui est très difficile à obtenir et il y a plein de malus quand tu le prends. On peut aussi faire un échec critique entre 96 et 100. Donc quoi qu'il arrive, il faut quand même lancer les 100 parce qu'on connaît quelques personnes parmi nous qui ont une chance incroyable, n'est-ce pas ? Ils sont toujours capables de tomber dessus. Et un échec total aussi. Alors l'échec total intervient quand on dépasse le seuil à atteindre plus 50. Exemple, si je devais faire 30 ou moins et tout score supérieur à 80 sera un échec total. Alors c'est plus pénalisant qu'un échec classique qui intervient donc quand tu rates en fait ton seuil de difficulté, mais ça l'est moins quand même qu'un échec critique.
Ah oui, donc tu fais 100.
Voilà, c'est un peu entre les deux quelque part. Je trouve ça plutôt intéressant parce qu'en fait, là, ça montre et ça révèle plus d'un manque total de compétences du personnage qui commet donc une bourde. C'est-à-dire que souvent dans les jeux de rôle, le mec fait je peux pas piloter un avion, ok, je me commande, je pilote l'avion, échec. Ah. Ouais, bah, on va pas te faire t'écraser, ce serait plutôt un échec critique ça. Bon bah, je sais pas, échec, bah, tu arrives pas à piloter l'avion. Alors que là, on peut vraiment faire un échec total, genre ah bah merde, t'ouvres un trou d'air dans l'avion parce que t'appuies sur le mauvais bouton. Oh non. Voilà, donc. Donc voilà, c'est ça un peu le principe du truc, donc c'est plutôt intéressant, je trouve. Mmh. Et c'est assez bien trouvé.
C'est de la richesse de scénario, ça.
Ouais, c'est de la richesse de scénario, ça. Alors, à ces règles, on ajoute l'utilisation des perles du destin. Mmh. Alors, ils sont classés par couleur selon leur rareté. On a des perles rouges, bleues, vertes et noires. Alors, celles-ci sont tirées aléatoirement.
C'est la monnaie ?
Non, non, bah, non, ça on y reviendra. Pardon. Alors, celles-ci sont tirées aléatoirement à chaque début de partie par les joueurs. Maximum 3. Là justement on arrive les fameuses nationalités qui sont vachement bourrines, genre ah, je suis une Atlantis, je suis subabis, je suis super bourrin, j'ai plein de carac et tout le reste, tout le monde m'admire, tout le monde me déteste, mais c'est pas grave, j'ai le plus grand gouvernement du monde derrière moi, ont aucune perle du destin à créer. C'est pour leur dire voilà, les dieux sont pas avec toi quoi. Donc les autres en ont. Donc, quelque part ça donne un bonus pour équilibrer un
ça,
peu.
Ça équilibre, ouais, ouais.
Voilà, ça équilibre un peu. Okay. Ah ouais, bah moi j'ai des carac de merde. Ah ouais, mais toi t'as le destin. Voilà. Donc on peut en gagner en cours de partie quand on fait des bonnes actions ou quand on fait par exemple une réussite critique, il me semble qu'on en pioche une. Pareil pour un échec critique, on en pioche une. Histoire de dire ah bah t'as pas de peau ou alors t'as une peau monumentale, faut bien. Voilà. Donc les bonus qu'ils peuvent donner ces perles quand tu les crames, ça va de relancer un jet jusqu'à avoir relancer un jet pour les plus grandes, ça peut carrément donner un bonus à ce jet, gagner un bonus d'initiative en combat ou réduire les dégâts qu'on se verrait infliger.
Okay.
Donc voilà, c'est un peu tout n'importe quoi, c'est assez sympathique. Sachant qu'en gros, les rouges, bleus et vertes sont donc trouvables, et la noire est uniquement donnée par le MJ quand il trouve que t'as fait vraiment un truc génialissime. Quoi. Donc voilà. Note intéressante aussi, le MJ pioche en début de partie 3 perles pour ses PNJ à lui, et en repioche à chaque réussite critique d'un joueur ou quand un joueur utilise une perle à son tour.
D'accord. Ah oui, donc les PNJ, les personnages non joueurs, ont aussi des perles du destin qui peuvent
qui peuvent être
mettre des bâtons dans les roues des joueurs.
Sachant par contre, quand le MJ utilise la sienne, le joueur qui en a fait les frais pioche aussi une perle du destin.
C'est sans fin, c'est magnifique.
Alors le site en fait donc officiel propose donc un petit sac avec des billes, donc en un mot une centaine de billes qui sont les perles du destin, qui sont en proportion égale, donc il y en a 100, donc je crois que c'est genre t'as une douzaine de billes vertes, plus ou moins de billes trucs comme ça, bleues et le reste. Donc ça bien sûr, si on n'a pas les moyens de se le payer ou de pas envie de le prendre, parce que c'est vrai qu'un sac de billes c'est sympa, mais trimballer ça doit être un peu bizarre, si en plus t'en perds une ça doit être juste être atroce. Donc vas-y, va rencontrer tes 100 billes pour vérifier qu'il en manque pas une. Donc à la limite, sinon on peut les tirer au dé, donc sachant qu'il y a un tableau de pourcentage pour appréhender la chance, donc voilà.
Ça marche.
Sachant qu'ils expliquent, c'est vrai que ça fait perdre un peu l'attention, parce que quand il y a 3 personnes qui ont pioché des billes vertes, il y en a vachement moins dans le paquet, alors forcément les gens sont là genre j'ai envie d'une, voilà, donc voilà. Ah oui, aussi pour les combats et les blessures, rapidement vu que j'ai encore un peu de temps, les combats et les blessures, donc c'est pareil, c'est un peu particulier. En gros, on fait des dégâts, donc selon l'arme, selon le tir, quoi que ce soit et tout reste, on fait des dégâts, donc qui sont plus ou moins importants, qui vont de 1 à 200, trucs comme ça. Selon la vigueur de la cible, on se reporte à un tableau, genre ah, j'ai fait 50 de dégâts, il a 25 de vigueur, ça amène là. Ça nous donne un type de blessure, sachant qu'il y a blessure légère, blessure moyenne, blessure grave, coma et mort. Donc on reporte, on fait bah voilà, t'es mort. Ou alors voilà, t'as une blessure légère ou un truc comme ça. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il précise bien que vu qu'il y a apparemment de l'oka, on peut toujours, quelqu'un peut toujours dire je vise la tête, dans ce cas la tête sera automatiquement un coma, quoi qu'il arrive, sans que tu réussisses à toucher. Ou au moins une blessure grave. Ce sera voilà, au moins une blessure grave, minimum si on touche la tête. Et qu'en général, il précise que si je pense que c'est une blessure légère, prière en gros de faire comme si c'était un membre ou pas une extrémité, genre le pied ou la main qui avait pris le tir.
D'accord.
Ou un truc comme ça. Donc voilà, ils ont plutôt bien équilibré le truc en disant, au niveau du RP, en disant voilà, les dégâts se font. Après, il y a des règles qui sont un peu particulières. En principe, les joueurs, les personnages ont aussi la beauté. C'est-à-dire que quand tu jettes en fait au personnage, tu jettes aussi un jet pour vérifier ta beauté. En principe, ça gère. Donc c'est plutôt intéressant. En gros, il y a des personnes qui sont moches comme des poules, il y en a d'autres qui sont super beaux. Ça va gérer, hein, ça va. Gérer en fait son interaction sociale. En gros, c'est plus ou moins une valeur passive pour dire quand t'es moche comme un pou, voilà quoi, ça va pas t'aider dans la vie. Mais par contre, c'est aussi un charisme intérieur. Il sépare bien le charisme physique et le charisme moral. Donc ça fait que tu peux être moche comme un pou, mais avoir des gros malus, donc tout est jet charisme intérieur, enfin fait extérieur. Mais par contre, être un super, par exemple, un animateur radio ou quoi que ce soit, et puis avoir des millions de fans parce que tu fais comme ça, un peu comme nous, quoi, quelque part, hein, qui avons un physique disgracieux, mais qui parlons à la radio. Enfin, surtout toi. Donc, voilà. C'était intéressant, toi. Après, il y a certaines règles un peu bizarres, genre par exemple, pour la séduction, qui demande limite de jeter 35 000 dés, de faire le truc et tout reste, d'avoir des malus bonus. Ça fait un peu compliqué, sachant qu'en gros, on a une chance de totalement foirer son coup pour et que le mec ne veut plus jamais te voir et te déteste à mort sur juste un jet.
C'est pas trop optimisé pour les relations sociales ?
Si, ça peut. C'est-à-dire que celui-là, ce tableau, je trouve qu'il était un peu en plus, parce que, enfin, un peu en trop, parce que quelque part, ce genre de truc-là se gère par le RP. Enfin, moi, personnellement, je trouve. Oui. Donc, c'est vrai que gérer toutes les relations sociales, la séduction sur un jet de dés, je veux dire, à la limite, moi, je le ferai uniquement pour les joueurs qui n'ont pas envie de. Comment dirais-je on connaît tous un joueur en fait qui n'a pas envie de faire de RP, qui veut juste lancer des dés. Bon, ok, fais-le, mais je lui foutrai quelques malus quand même pour lui apprendre un peu, quoi. Parce que bon, ouais, voilà quoi.
Il y en a pas mal des jeux où les relations sociales sont upardées et c'est toujours un peu dommage. Je suis assez d'accord avec toi sur ce plan. Mais enfin bon, là, du coup, il y a quand même la place pour le RP quand
après,
même.
Après, oui, il y a quand même la place. Après, sous-entendu qu'on peut toujours jouer, par exemple, la beauté, ce genre de choses, on peut toujours les utiliser en passif en gros. En
d'accord,
gros, ça donne plus ou moins des malus ou des bonus, par exemple. On dit, par exemple, un personnage moche va pas forcément réussir à obtenir un prix chez un marchand, alors que par exemple, c'est une super bombe sexuelle qui décide en passant, en fait, en plus d'ouvrir sa combinaison de 20 cm pour se faire un décolleté plongeant. Les hommes étant ce qu'il faut
c'est
et tout
bonus,
reste.
C'est du bonus, ça.
Voilà, les hommes étant ce qu'il faut après et tout reste, elles vont forcément avoir un gros bonus pour acheter une arme ou un truc comme ça. Bon, après, je dirais, j'ai de chance pour le fait que le monsieur n'est pas gay, mais bon, on sait jamais. Voilà, donc la dernière, la partie technique donc présente avec moult détails les combinaisons et leurs technologies, divers sous-marins, ici nommés Aquajet, les divers inventaires et équipements. Voilà.
Tu veux pas trop parler de la gestion de l'environnement parce que c'est quand même un peu particulier.
Alors oui, alors c'est plutôt bien foutu en général. Alors ça fait en fait en gros que le bouquin par contre est très bien fait pour cette partie. Yes. Ils expriment plutôt extrêmement bien la notion de pression.
Et oui.
Il y a des règles très précises sur la pression, comment la gérer, sachant qu'en général ils précisent bien que donc, l'autonomie par exemple des batteries, ce genre de choses là, par exemple qu'on est dans un sous-marin, savoir que l'oxygène en général c'est l'oxygène qu'on va foutre dans un sous-marin, mais pas forcément en fait, on va foutre plutôt des mélanges de gaz qui ont tendance par exemple à moins subir la pression des océans et à demander des paliers de décompression moins importants, ou alors dans les combinaisons carrément utiliser des liquides, donc en un mot remplis d'oxygène, un peu comme dans le film Abyss, donc on peut le voir. Donc on sent quand même voilà une très bonne enfin une très bonne recherche dessus.
Il y a du boulot dessus, ouais,
voilà.
D'accord. Ouais.
Donc à la mot c'est bien sûr il précise qu'il faut absolument avoir vu quelques documentaires sur la vie marine, ce genre de choses là, ou voir même sur il conseille vraiment d'avoir vu Abyss ou quelque chose dans le genre. Voilà, il conseille au moins d'avoir vu Abyss parce que ça peut être très intéressant sur comme film, parce que justement il traite bien de ce sujet-là au niveau de la pression, de ce genre de trucs comme ça. Donc là on peut aller des pressions jusqu'à 10 000 mètres de profondeur, ils expliquent bien, donc c'est très difficile et tout le reste, on se retrouve avec énormément de détails, aussi bien par exemple des détails psychologiques,
cool.
Genre par exemple
la folie des profondeurs,
voilà comment gérer la folie profondeur, comment gérer en fait l'aptitude, donc à la mot que tu vas avoir à gérer plus ou moins le stress, comment tu vas gérer en fait avec ta combinaison, comment la combinaison gère, les combinaisons à différentes cloisonnements, genre par exemple tu perds un bras, bah 8 mètres de profondeur, t'as une brèche dans ta combinaison, t'as pas besoin de poser de questions à ton. Quand t'avais ta main dedans, bah t'as plus de main. Sachant que, explique bien en fait en gros la pression, comment, à quel point elle augmente, qu'est-ce que c'est tout reste. Je crois que c'est. On gagne 10 kg ou 100 kg de pression par mètre ou kilomètre, je sais plus combien c'est exactement, je crois que c'est par kilomètre.
Moi j'aurais dit mètre.
Non, c'est pas mètre, c'est pas loin. C'est, peut-être vraiment, c'est assez impressionnant quand même. Donc on se retrouve vraiment à des profondeurs de 8 km avec plusieurs milliers de tonnes de pression sur un seul point par centimètre carré. D'ailleurs, des armes très intéressantes aussi, ils ont une bonne idée. Genre par exemple, un fusil qui est plus puissant selon la profondeur à laquelle il tire, parce qu'en fait, quand tu tires sur quelque chose, ça va être une sorte de petite araignée qui va s'accrocher par exemple au costume, à l'armure ou quoi que ce soit, tu sais, un truc qui va juste se coller et qui va envoyer en fait en gros un produit chimique spécialement créé qui est hydrophobe, donc qui va repousser l'eau sur un centimètre carré pendant un quart de seconde avant de se dissiper, donc ça fait qu'on va avoir une poche d'air de vide d'air d'un centimètre carré qui à coup va se remplir d'eau. Donc on se dit, ah, je vois pas en quoi c'est intéressant. Bah non, quand t'es à 10 mètres de profondeur, je vois pas l'intérêt. Par contre, quand t'es à 8 km et que la pression est de 8000 tonnes en fait par centimètre carré, il y a pas grand chose qui peut résister à une force de pression de 8000 tonnes sur 1 centimètre carré. En général, la pression d'explose ton armure. C'est intéressant comme concept. Donc il y a vraiment des trucs très intéressants dessus.
De l'inventivité de ce côté-là.
Voilà. Après, il y a aussi une sorte de. Ils présentent aussi le propergol, qui est une sorte de matière qui peut être solide ou liquide, qui a été inventé et qui permet de gérer aussi bien les alliages que l'aquajet. On a des trucs intéressants aussi, comme par exemple le fait que les plastiques n'existent quasiment plus. Donc, ce qui demande d'utiliser les ressources pétrolières et en général, sous l'eau, sensation de pompage à la surface, c'est très difficile. Que finalement, le bois, pour la même raison, vu qu'il y a quasiment très peu de terre émergée, vu que la calotte glaciaire s'est accédée sous l'impact de la première grande vague originelle, c'est totalement fondu, ce qui fait qu'il y a quelques îles, pas mal de terre émergée à droite à gauche, mais pas de, à part un continent ou deux qui commence un peu à ressortir pas loin de la cordillère des Andes, de l'Himalaya, c'est pas, il y a pas grandement de terre émergée, donc il y a très peu de bois. Et donc finalement que on se retrouve avec un petit côté il manque des matières premières, alors à la place on a l'homme à remplacer quasiment tout ça par le métal. Donc on est devenu en fait une pointe de technologie en ferronnerie et en utilisage en fait des métaux, avec des métaux polymorphes, des métaux vivants limite qui se régénèrent tout seuls, des métaux transparents. Donc qui agissent comme du verre, donc finalement qu'on utilise énormément de différentes techniques de transport et autres.
D'accord, donc, plein de bonnes idées donc.
Voilà, pas mal de bonnes idées, on sent vraiment que ça a été fait sur 20 ans, qu'il y a eu pas mal de trucs qui ont été construits à côté, et que l'univers... Mais voilà, encore une fois, c'est vrai que vu qu'on sort très peu de background, on sent vraiment voilà, qu'il y a quelque chose de très profond, on a le minimum requis pour pouvoir jouer, mais c'est vrai que c'est vraiment le minimum requis. Alors après, c'est un choix éditorial, et je vais pas critiquer plus que ça, mais parce que j'ai déjà donné mon idée dessus, mais voilà.
Et ouais, c'est pour faire un bouquin de 500 pages de plus.
Voilà.
C'est compliqué.
Alors, la dernière partie donc, représente le bestiaire et des conseils pour créer vos créatures, donc en passant donc, des archétypales, poulpes géants et autres pieuvres mutantes.
Cool.
On va aller, on va après jusqu'à des créatures mutantes, les cachalots, ce genre de choses-là. Quelques créatures qui sont données. On donne aussi un appendice, donc un amo, pour, avec une série d'archétypes de mutants. Passant du mutant de combat au mutant esclave sexuel, en passant par le mutant lambda qu'on peut croiser dans la rue et qui balaye. Donc on a une appendice sur une expédition scientifique faisant une bonne excuse pour réunir les divers personnages, ce qui est plutôt intéressant.
Pour un premier scénario.
Voilà, même à la limite pour un début de campagne en fait. C'est vraiment une excuse, voilà, on sent vraiment que finalement ils ont pensé aux MJ débutants qui se sont dit c'est vrai qu'on leur donne pas très peu de background, alors on va leur ajouter ça pour leur donner au moins une base pour qu'ils puissent avoir une idée de réfléchir. Et 6 scénarios que je conseille donc de lire car ils contiennent plusieurs informations intéressantes sur l'univers. Par exemple, les cultes odieux, certains cultes un peu. Dire que t'as un truc qui est basé un peu sur un culte à l'Actoulou, mais sachant que c'est un dieu officiel. Voilà quoi. Donc le livre en lui-même est magnifique, hein, ça on l'a déjà dit. Les illustrations pour la majorité sont en speed painting, vont bien avec l'univers, par leur aspect, leur graphisme. On sent un petit côté un peu coquin et frivole de temps en temps, avec des combinaisons qui s'ouvrent grandement sur des poitrines plantureuses, mais bon après, il y a des tentacules qui se baladent un peu à droite à gauche. Mais bon, écoutez, nous sommes sous l'océan, messieurs, s'il vous plaît. Le nombre des illustrations est très important, que ce soit aussi bien des logos, des trucs comme ça, que des vraies illustrations. Et toutes les 2 ou 3 pages, on a le plaisir de tomber dessus. Le livre propose ses textes dans un format 3 colonnes, corps 10, donc au niveau de l'écriture. Ce qui est un peu fatigant pour les yeux, mais elle mérite de proposer plus d'informations dans le livre, ce qui fait qu'on sent quand même, mais parfois, on a un peu l'impression de voir le fameux effet galette de texte à lire, qui n'est pas forcément très bien. La mise en page a tendance à gommer un peu ça, parce que finalement, elle est plutôt bien agencée. Ce n'est à part, comme j'ai fait remarquer, quelques incohérences sur le placement de certaines rubriques. On se sent parfois quand même, faut l'avouer, à batailler avec le livre quand on est MJ, parce que le glossaire est assez succinct. Présente grande partie 1, 2, 3 et tout reste, c'est 2, 3 petits points, il n'y a pas d'index. Donc dès qu'on a envie de chercher un moindre truc, on est obligé de refaire tout le bouquin en
faisant. Souvenir.
Je me rappelle, je l'avais vu, attendez, je crois que c'est pas 220. mais dans l'ensemble, c'est du très bon travail. Yes. À noter, alors là c'est très important, que pour le projet, le financement coopératif et participatif a été choisi.
Ah cool.
D'ailleurs aujourd'hui, on vient de passer encore un palier, donc qui était pour le supplément. Alors, chaque palier en menant à la sortie d'un nouveau produit de la gamme, l'écran, le supplément, des tunés spécialement pour l'occasion, etc., etc. Et qu'à chaque dépassement de palier, donc, en général, un palier, par exemple, genre, là, je crois que le nouveau, c'était 4000 euros ou quelque chose en genre, donc pour 4500 des poussières pour avoir le supplément, et ils sont arrivés à plus de 147% de participation.
Yes.
Donc, avec les 6000 euros de plus, et ben, ils ont précisé, vu qu'on a eu 2000 euros de plus pour le faire, un peu moins, mais dans ces délais-là à peu près, et ben, on a décidé, donc, au lieu d'avoir juste une couverture rigide pour le supplément, et ben, il va avoir une couverture solide. Enfin, avoir
souple,
une couverture
rigide,
souple, voilà, pas
ouais,
okay, couverture
on a compris,
solide.
On a compris.
Voilà.
Super, c'est formidable. Bon,
donc,
et ben, le retourne.
Alors, attends, je finis juste rapidement.
Okay.
Donc, rappelons aussi, donc, au que Subabis possède son site dédié, donc, ainsi qu'un forum officiel sur Ludopathe. Je vous conseille d'aller voir rapidement. Pour conclure, j'ai apprécié le jeu. Donc, j'en ai fait pas mal de critiques, mais j'ai trouvé l'univers très intéressant. Le contexte permet énormément de situations, souvent nouvelles pour les MJ et le joueur. Devoir agir avec la pression, gérer les réserves d'oxygène, veiller à l'infiltration d'eau. Donc, tout ça sont des trucs que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Qui se retrouve très intéressant très rapidement. J'ai été MJ dessus et j'ai mes joueurs aussi, je manque d'opinion sur cette partie. Mais en tant que MJ, donc je conseille ça aux maîtres, donc je conseille aux maîtres débutants sur ce jeu de faire une partie test ou deux avec les scénarios proposés avant de débuter une campagne, une vraie, parce que le manque d'informations donc laisse certes une grande liberté, mais nécessite donc de se trouver un style personnel, une ambiance et un rythme propre à chacun. En tout cas, ça fait une plongée gratifiante dans les autres Subabis. Je garde un œil vigilant sur la suite de la saga, que d'ailleurs on peut voir justement grâce à leur financement participatif assez facilement. Donc voilà.
Super, merci. Bon, et